Chapitre 3. Intrus. Aussitôt, les deux gentlemen, aux parements et aux boutons d'une propreté douteuse, qui assistaient à la dernière enquête que le coroner fit dans Cox Court, reparaissent encore avec une rapidité surprenante, conduits en toute hâte par Mooney, l'actif et intelligent bedeau. Ils font une perquisition dans toute la cour, s'enfoncent dans le parloir des armes d'Apollon, et de leurs petites plumes à vide, relatent sur du papier pelure d'oignon comment tout le quartier de Chancery Lane fut plongé vers minuit dans la plus vive agitation par l'horrible découverte qu'on va lire. Ils établissent d'abord qu'on n'a pas oublié l'émotion pénible causée naguère dans l'esprit public par un cas de mort mystérieuse attribué à l'opium et arrivé au premier étage de la maison où se trouve situé le magasin de chiffons et de vieilles bouteilles appartenant à un vieillard excentrique nommé Crook, dont tout le monde connaissait les habitudes intempérantes. Que par une singulière coïncidence, Crook fut interrogé à l'enquête du coroner, qui eut lieu à cette occasion, comme on peut se le rappeler, aux armes d'Apollon, taverne parfaitement tenue, dirigée par un homme éminemment respectable, M. George Boxby, et qui touche, du côté de l'ouest, à la demeure en question. Après quoi, les deux chroniqueurs racontent le plus longuement possible que, dans la soirée précédente, une odeur particulière fut observée par les habitants de la cour où s'est produit le tragique événement qui fait le sujet de l'article. Que pendant un instant, cette odeur fut si forte que M. Swills, chanteur comique engagé par M. George Boxby, a dit à celui qui nous l'a rapporté qu'il avait confié à Miss Melvilleson, cantatrice remarquable, également engagée par M. Boxby, pour chanter dans une série de concerts qui, sous le nom de soirée musicale et sous la direction de M. Boxby, se donnent aux armes d'Apollon en vertu de l'ordonnance de George II, qu'il sentait sa voix sérieusement affectée par l'état impur de l'atmosphère, et que, suivant son expression plaisante, il était comme un moulin après un long chômage, n'ayant pas de son dans son coffre. Que cette assertion de M. Swills est complètement corroborée par le témoignage de deux femmes intelligentes, toutes deux mariées, Mrs. Perkins et Mrs. Piper, qui habitent la même cour, et qui ont remarqué ces émanations fétides qu'elles ont supposées provenir de la maison de M. Crook, l'infortuné défunt. Pendant que cette relation, augmentée de bien d'autres détails encore, est écrite sur les lieux, tous les gamins de la cour, à bas du lit en un clin d'œil, escaladent les contrevents du parloir des armes d'Apollon pour contempler le sommet de la tête des chroniqueurs noircissant leur papier pelure. Toute la population de Cox Court est dehors, les adultes aussi bien que les enfants. Impossible de dormir et de faire autre chose que de s'embitoufler chaudement pour se rendre à la maison maudite où la catastrophe est arrivée. Miss Flight est bravement arrachée de sa chambre comme si le feu y avait été. On lui fait un lit aux armes d'Apollon où le gaz ne s'éteint pas de la nuit et dont la porte reste ouverte, car toute émotion publique fait éprouver aux habitants de la cour le besoin de prendre quelques rafraîchissements. Jamais, depuis la dernière enquête, l'Apollon n'a tant débité de grog et de spiritueux. « La pratique va joliment donner », s'est dit le garçon de taverne en roulant ses manches de chemise, qu'il relève jusqu'à l'épaule. Tandis que le jeune Piper, qui, au premier cri d'alarme, s'est précipité vers le poste des pompiers, revient triomphalement au petit galop, perché sur le phénix, et reparaît au milieu des casques et des torches. L'un des pompiers reste en arrière, après avoir examiné soigneusement toutes les lézardes et les fissures, et se promène lentement, de long en large, devant la maison, en compagnie de l'un des deux policemen qui sont probablement chargés de veiller sur cet immeuble. Quiconque a sixpence dans sa poche éprouve le besoin d'offrir à cet estimable trio l'hospitalité sous une forme liquide. M. Weevil et M. Gappé sont à l'intérieur de la taverne, où leur présence est d'un tel intérêt pour les armes d'Apollon que rien ne saurait être épargné pour les retenir. Ce n'est pas l'heure de regarder à l'argent, dit M. Boxby, qui néanmoins fait la plus grande attention à celui qu'on dépose sur le comptoir. Donnez vos ordres, messieurs, et c'est avec plaisir que l'on vous servira tout ce que vous demanderez. Pour répondre à cette invitation, les deux gentlemen, M. Weevil surtout, demandent tant et tant de choses qu'il leur devient très difficile de désigner quoi que ce soit d'une manière distincte, bien qu'ils continuent d'informer tous les nouveaux arrivants de ce qu'ils ont vu, dit et pensé depuis la veille. De temps en temps, un policeman pousse la porte qu'il entrebâille, et de l'ombre où il se trouve, jette un coup d'œil à l'intérieur. Non pas qu'il ait aucun soupçon, mais pour savoir, par curiosité d'état, ce qui se passe dans la taverne. La nuit s'écoule ainsi, traînant sa marche pesante, et voit les habitants de la cour, à une heure qui ne les a jamais trouvés debout, continuant de se régaler réciproquement et d'agir comme des voisins qui ont retrouvé tout à coup un peu d'argent qu'on ne leur soupçonnait pas. Elle se retire enfin, et l'allumeur de réverbère, chargé de les éteindre, faisant sa ronde comme le bourreau d'un monarque absolu, fait tomber ses têtes de flamme qui aspiraient à diminuer les ténèbres. Le jour vient, le jour de Londres, c'est-à-dire brumeux et sombre. Mais il suffit pour reconnaître que les habitants de Cook's Court ne se sont pas couchés. La brique et le mortier des murailles qui entourent les visages endormis sur les tables, les jambes étendues sur le carreau, ont eux-mêmes un air de fatigue et d'épuisement. Le quartier s'éveille et, apprenant ce qui est arrivé, accourt en foule, à demi vêtu, s'enquérir des détails de cette histoire lamentable. Si bien que les deux policemen et le pompier, sur qui l'agitation et l'insomnie ont laissé des traces beaucoup moins visibles que sur le reste de la cour, ont infiniment de peine à garder la porte de la maison. « Bonté divine, qu'est-ce que je viens d'apprendre ?» s'écrie M. Snagsby en s'approchant d'un policeman. « La pure vérité, » répond l'un d'eux. « Quand je pense, gentleman, » reprend M. Snagsby en faisant un pas en arrière, « quand je pense que j'étais là hier au soir, entre 10 et 11, à causer sur cette porte avec un jeune homme qui loge dans cette maison. » « En vérité, » dit le policeman, « eh bien, vous trouverez ce jeune homme dans la maison d'à côté. » « Allons, vous autres, circulez !»« Il n'est pas blessé, j'espère ?» demande M. Snagsby. « Non, qu'est-ce qu'il aurait blessé ?» M. Snagsby, incapable de répondre à quoi que ce soit dans l'état d'esprit où il est, se dirige vers les armes d'Apollon et trouve M. Weevil assis languissamment devant une tasse de thé au milieu d'un nuage de fumée de tabac et dans un accablement indicible. « Monsieur Gappé !» s'écrie le papetier. « Lui aussi ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ! Quelle destinée dans tout cela ! Et ma petite ?» M. Snagsby perd tout à coup la parole en voyant celle qu'il allait nommer entrer aux armes d'Apollon à 7 heures matinale et s'arrêter en fixant sur lui des yeux accusateurs. « Ma chère, veux-tu prendre quelque chose » demande-t-il à sa femme dès que sa langue est déliée. « Un petit... pour dire le mot et parler sans détour, un petit grog ?»« Non. » « Mon amour, tu connais ces deux gentlemen ?»« Oui. » L'excellent homme ne peut pas supporter un pareil laconisme. Il prend Mrs. Snagsby par la main et la conduit près d'un tonneau. « Ma petite femme, pourquoi me regardes-tu ainsi ? Je t'en conjure, ne me fais pas ces yeux-là. »« Je ne peux pas changer mes yeux, » dit la petite femme, « et je ne le voudrais pas, quand bien même je le pourrais. »« Tu ne le voudrais pas ?» reprend Mrs. Snagsby en toussant avec douceur. Il réfléchit un moment, fait entendre sa toux inquiète et dit « C'est un effroyable mystère, mon amour. » Il est de plus en plus déconcerté par le regard de sa femme. « Effroyable, en effet, » répond Mrs. Snagsby. « Ma petite femme, » dit le papetier d'une voix piteuse, « au nom du ciel, ne me parle pas avec cette amertume et ne me regarde point de cet œil inquisiteur. Je t'en supplie. Tu ne supposes pas que j'ai pu vouloir combustionner spontanément qui que ce soit, cher trésor. Je n'en sais rien, » réplique Mrs. Snagsby. L'infortuné papetier, après un rapide examen de sa triste position, ne pourrait pas non plus affirmer qu'il n'est pour rien dans cette mort. Il est tellement mêlé à quelque sombre mystère, il a pris sans le vouloir une part si active à quelque chose de ténébreux, qu'il est bien possible qu'il soit impliqué, à son insu, dans ce dernier événement. « Chère âme, dit-il en s'essuyant le front avec son mouchoir et d'une voix étouffée, n'y a-t-il rien qui puisse t'empêcher de me dire comment il se fait que, toi, dont la conduite est généralement d'une circonspection scrupuleuse, tu sois venu dans une taverne avant l'heure du déjeuner ? Et vous, pourquoi y êtes-vous ? Demande à son tour Mrs. Snagsby. Chère âme, simplement pour savoir la vérité sur le fatal accident qui est arrivé à ce malheureux Crook, afin de t'en rapporter les détails, mon amour, pendant que tu aurais mangé ton pain mollet. Je n'en doute pas, M. Snagsby. « Vous me racontez si exactement ce que vous savez. »« Tout ce que je sais, ma petite. »« Je serais bien aise de vous voir revenir à la maison, » dit Mrs. Snagsby avec un sourire sinistre, après avoir contemplé un instant la confusion croissante de son mari. Vous y seriez plus en sûreté que partout ailleurs, monsieur Snagsby. Mais je suis prêt à partir. » Le papetier jette un regard consterné autour de lui, souhaite le bonjour à monsieur Weevil et à monsieur Guppy, leur exprime la satisfaction qu'il éprouve de les voir sains et saufs, et accompagne sa petite femme qui sort de la taverne. Le soir n'est pas arrivé, car la persistance avec laquelle Mrs. Snagsby le regarde fixement depuis le matin, il ne doute plus de la part de responsabilité qu'il a assumée dans la catastrophe dont s'entretient tout le voisinage. Cette pensée lui cause une telle souffrance que, par instant, l'idée lui vient d'aller se livrer à la justice et de demander à être jugé pour se voir absoudre s'il est innocent ou pour subir toutes les rigueurs de la loi s'il est vraiment coupable. M. Weevil et M. Guppy, ayant fini de déjeuner, vont faire un tour dans Lincoln's Inn avec l'espoir que le grand air débarrassera leur cerveau des toiles d'araignée qui l'obscurcissent. Nous ne pouvons pas trouver de moment plus favorable que celui-ci pour échanger un mot ou deux sur un point qu'il est important de régler le plus tôt possible, dit M. Guppy, après avoir parcouru d'un air pensif les quatre côtés du square. William Guppy, répond l'autre en lui lançant un coup d'œil sanglant, s'il s'agit encore d'une conspiration quelconque, ne prenez pas la peine de m'en parler. J'ai assez de vos complots et n'en veux pas davantage. Je suis sûr que prochainement, nous vous verrons brûler ou sauter comme une mine dont la mèche a pris feu. » Cette assertion est tellement désagréable à M. Guppy que c'est d'une voix tremblante qu'il réplique d'un ton de reproche « Tony, j'aurais pensé que les événements de la nuit dernière vous auraient servi de leçon et que désormais vous vous seriez abstenu de toute personnalité. »« J'aurais pensé, William, répond à son tour M. Weevil, qu'après un pareil avertissement, vous vous seriez abstenu désormais de toute conspiration. » Qui conspire? Demande M. Guppy. Vous, répond M. Jobling. Non, affirme M. Guppy. Si, retourne M. Jobling. Qui ose le dire? Poursuit M. Guppy. Moi, riposte M. Jobling. En vérité, s'écrie M. Guppy. Oui, vraiment, répète M. Jobling. Et tous les deux, s'étant échauffés, ils marchent quelque temps sans rien dire, afin de recouvrer leur sang-froid. « Tony, reprend alors William, si au lieu de l'accuser vous écoutiez votre ami, vous ne tomberiez pas dans de semblables méprises. Mais vous vous emportez et ne réfléchissez pas. Doté par la nature de tout ce qui charme les yeux, « Oh, je vous en prie, s'écrie M. Weevil, ne parlons pas de mes charmes, et dites ce que vous avez à dire. » Cette disposition morose de son ami oblige M. Guppy à refouler en lui-même les sentiments les plus délicats de son âme, dont l'expression ne se trahit plus que par le ton offensé avec lequel il reprend la parole. « Tony, poursuit-il, quand je disais tout à l'heure qu'il était important d'éclaircir entre nous, et le plus tôt possible, un point auquel je faisais allusion, je parlais d'une chose complètement étrangère à toute espèce de complot. Vous savez que dans toutes les causes qui doivent être jugées, les faits que les témoins ont approuvés sont légalement discutés à l'avance. Est-il ou n'est-il pas convenable que nous sachions sur quels faits nous aurons à déposer dans l'enquête qui va s'ouvrir relativement à la mort de ce vieux de cet infortuné gentleman. M. Guppy allait dire gredin, mais il pense que gentleman est plus approprié aux circonstances. Sur quels faits? Demande Tony. Les faits sur lesquels portera l'enquête. Premièrement, dit M. Guppy en comptant sur ses doigts, premièrement, ce que nous connaissons des habitudes de ce gentleman. Deuxièmement, à quelle époque nous l'avons vu pour la dernière fois? Troisièmement, dans quelles conditions il se trouvait alors? Quatrièmement, comment nous avons découvert l'événement dont il s'agit et ce que nous savons à cet égard? Oui, répond M. Weevil, tous ces faits sont relatifs à la cause. Notre découverte a eu lieu, continue William, par suite d'un rendez-vous qu'il vous avait donné. Rendez-vous qu'avec la bizarrerie qui lui était ordinaire, il avait fixé à minuit, heure à laquelle vous deviez lui dire le contenu de certains papiers, ainsi que vous l'aviez fait déjà plusieurs fois, le dit gentleman n'ayant jamais su lire. Je passais la soirée avec vous, et j'étais dans votre chambre lorsque je fus appelé à descendre, etc., etc. L'enquête n'ayant pas d'autre but que d'établir les circonstances dans lesquelles la mort s'est produite, il n'est pas nécessaire d'en dire davantage. Je suppose que vous êtes là-dessus d'accord avec moi. « Oui, répond M. Weevil, je le suppose comme vous. »« À moins que vous ne voyiez encore là-dedans un complot, » demande M. Guppy d'un air profondément blessé. Non, réplique M. Weevil, et je retire l'observation que j'ai faite, si vraiment c'est tout ce que vous désirez. Et maintenant, je voudrais savoir, poursuit M. Capet, en prenant le bras de son ami et en ralentissant le pas, si vous avez songé aux nombreux avantages qu'il y a pour vous de continuer à demeurer au même endroit. Que voulez-vous dire ? Demande Tony en s'arrêtant.
La chose est claire.
Avez-vous réfléchi aux nombreux avantages qu'il y a pour vous à continuer de demeurer au même endroit ? Répète M. Capet en entraînant M. Weevil. Là-bas, répond Tony, en désignant du bout du doigt la direction où se trouve la boutique de chiffons et de vieilles bouteilles. Je n'y passerai pas une nuit pour tout au monde, dit M. Weevil en fixant un œil hagard sur son interlocuteur. Sérieusement, Tony ? Ai-je l'air de plaisanter ? Répond M. Weevil en frissonnant de tous ses membres. De sorte que la possibilité, ou même la probabilité, car c'est ainsi que la chose doit être envisagée, la probabilité de jouir paisiblement des effets qui appartenaient hier encore à un vieillard isolé, n'ayant sans doute aucun parent sur la terre, et la certitude d'être à même de découvrir ce qu'il avait réellement amassé, ne pèse rien dans la balance à vos yeux, sous l'empire des événements de la nuit dernière ? Demande M. Capet en rongeant son ongle de l'air d'un homme profondément vexé. Certainement non, et je ne comprends pas qu'on parle avec ce calme de faire rester un ami dans une pareille demeure. Habitez-y vous-même, s'écrie M. Weevil avec indignation. Moi, Tony, répond William d'une voix flatteuse, je ne puis pas aller occuper maintenant un logement que vous avez loué pour vous et où l'on ne m'a jamais vu résider. Vous y serez le bienvenu, répond M. Weevil. Bonté divine, certainement vous pouvez le prendre et vous y installer comme chez vous. Ainsi, dit William, vous renoncez à tout, si je vous ai bien compris. Vous l'avez dit, je renonce à tout, répète M. Weevil avec une fermeté inébranlable. Pendant qu'ils s'entretiennent de la sorte, un fiacre apparaît dans le square. Sur le siège est un énorme chapeau qui attire les yeux du public. À l'intérieur, et par conséquent beaucoup moins visible pour la multitude, mais suffisamment reconnaissable pour nos deux amis, car la voiture s'arrête précisément à côté d'eux, se trouvent le vénérable M. Smallweed et sa femme, accompagnés de Judy. Toute la famille a un certain air d'animation qui perce dans ses moindres gestes. Et lorsque le grand chapeau qui surmonte M. Smallweed Jr. quitte le siège de la voiture, le vieux Smallweed jette la tête hors de la portière en criant à M. Capet « Comment vous portez-vous, monsieur ? Comment vous portez-vous ? Qu'est-ce que Small vient faire ici avec toute sa famille ? Je voudrais bien le savoir, » dit William en faisant un signe de protection à son familier. « Mon cher monsieur, continue le grand-père Smallweed, auriez-vous l'extrême obligeance, vous et votre ami, de me porter à la taverne de Cook's Court pendant que Bart et sa sœur porteront leur grand-mère. Voulez-vous, mon cher monsieur, rendre ce service à un vieillard ?»«
À la taverne de Cook's Court, » répète M. Capet, en interrogeant du regard M. Weevil. Et tous deux s'apprêtent à porter ce fardeau vénérable aux armes d'Apollon.
« Voilà ce qui vous est dû, cocher, » dit le patriarche, en faisant une affreuse grimace et en montrant le poing au brave homme. « Demandez voir un penny de plus et je vous attaque en justice. » Mais bon, jeunes gens, prenez bien garde. Allez doucement, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous prendre par le cou. Je ferai tout mon possible pour ne pas trop vous serrer. Miséricorde ! Oh, mon Dieu ! Mes pauvres os ! Il est heureux que la taverne de la cour ne soit point éloignée, car M. Weevil n'a pas fait la moitié du chemin que sa figure présente un aspect apoplectique. Il accomplit néanmoins sa tâche sans qu'il résulte autre chose de ce symptôme alarmant que quelques sons gutturaux, indice d'une respiration excessivement gênée. Et le vieux gentleman est déposé, suivant son désir, dans le parloir des armes d'Apollon.
« Seigneur, mon Dieu !» s'écrie d'une voix étouffée M. Smallweed en regardant autour de lui. « Miséricorde ! Mes os et mes reins, quelle souffrance, oh mon Dieu ! Asseyez-vous, vieille tête de perruche sautillante ! Asseyez-vous, vieille folle caracolante !»
Cette légère apostrophe est adressée à Mrs. Smallweed à propos du penchant qui entraîne la vieille dame, toutes les fois qu'elle est debout, à sauter d'un pied sur l'autre et à prendre pour vis-à-vis tous les objets qu'elle trouve, en s'accompagnant d'un ramage particulier, comme une sorcière au sabbat. Une affection nerveuse entre probablement dans ces démonstrations chorégraphiques,
pour une part aussi grande que l'imbécilité de la pauvre femme, qui, déposée dans le parloir de la taverne, se livre avec tant d'ardeur à la danse en face d'un fauteuil Windsor, le jumeau de celui qui est occupé par M. Smallweed, qu'on ne peut l'y faire renoncer qu'en l'y assayant de vive force, pendant que son seigneur et maître lui prodigue les épithètes affectueuses de vieille folle et de corneille à tête de cochon, mille et mille fois répétées. « Mon cher monsieur, poursuit le grand-père Smallweed, en s'adressant à William, avez-vous entendu parler de cet affreux malheur qui est arrivé dans la maison voisine ?»«
Entendu parler, monsieur, mais c'est nous qui l'avons découvert. »«
Vous, monsieur ? Comment c'est vous ? Bah, ce sont eux qui ont tout découvert. »
Les deux jeunes gens fixent les yeux étonnés sur les Smallweed, qui de leur côté les regardent fixement. « Mes chers amis, s'écrie le vieillard en leur tendant les bras, que de remerciements ne vous dois-je pas pour avoir découvert les cendres du frère de Mrs. Smallweed ?»«
Hein ? » dit M. Gappé.
« De son frère unique, mon cher ami, du seul parent qui lui resta. » Il n'y avait pas entre nous de relation très suivie. Je le déplore actuellement. C'est lui qui ne l'a jamais voulu. Cependant, il nous aimait beaucoup, mais il était si excentrique. À moins qu'il n'ait fait un testament, ce qui n'est pas vraisemblable, j'entre en possession des biens qu'il a laissés. Je viens jeter un coup d'œil sur la propriété. Il faut qu'on y appose les scellés, qu'on la protège contre les malfaiteurs. Je suis venu pour examiner la maison, répète le vieil avare en griffant l'air de ses 10 doigts crochus. Small, dit l'inconsolable M. Gappé, vous auriez pu nous apprendre que ce vieillard était votre oncle. Vous étiez si réservés tous les deux à son endroit, répond le vieux petit jeune homme, dont l'œil brille secrètement, que j'ai cru vous faire plaisir en agissant comme vous. D'ailleurs, je n'étais pas trop fier de la parenté. Et de plus, ajoute la sœur de Small, dont l'œil brille également, ça devait vous être fort égal qu'il fût son oncle ou non. Il ne m'avait jamais vu, il ne me connaissait pas, continue Small, et je ne vois pas comment j'aurais pu vous le présenter. Nous ne nous visitions pas, reprend le vieux gentleman, et je le déplore. Je viens aujourd'hui pour examiner la maison, les papiers, toute la propriété, pour faire valoir mes titres. L'acte qui établit mes droits est entre les mains de mon avoué, M. Tulkinghorn, de Lincoln's Inn Fields, qui a la bonté de s'occuper de mes affaires. Et je vous assure que celui-là ne s'endort pas. Crook était l'unique frère de Mrs. Smallweed. Elle n'avait pas d'autres parents que lui. Il n'en avait pas d'autres qu'elle. « Je parle de votre frère, vieille sauterelle imbécile, de votre frère qui avait 76 ans. »
Aussitôt, Mrs. Smallweed se met à crier en branlant la tête. « 76 livres et 16 shillings. 76 fois 76 livres. 76 000 sacs de 1 000 livres. 76 millions de paquets de 1 000 billets de banque. « Qui veut me passer un pot ou une bouteille ?» s'écrie le vieux ladre exaspéré, cherchant en vain autour de lui un objet qu'il puisse saisir et lancer à sa femme. « Qui veut être assez bon pour me donner le crachoir, n'importe quoi de solide et de résistant, que je puisse lui jeter à la tête ? Vous tairez-vous, vieille sorcière, chienne aboyeuse, chatte enragée, furie d'enfer ?» Et M. Smallweed, exalté par sa propre éloquence, jette, à défaut d'autre chose, sa petite fille à sa femme, et retombe sur son fauteuil, où il ne présente plus qu'une masse informe qui se débat en criant « Remontez-moi, s'il vous plaît !»« Je suis venu jeter un coup d'œil à la propriété. Remontez-moi, je vous en prie, et appelez la police pour que je m'explique relativement à cette propriété. Il y va des galères et de la transportation pour qui oserait toucher à la propriété. La propriété » répète-t-il comme un écho, tandis que sa petite fille le redresse à coups de poing, suivant son habitude en pareilles circonstances. Les deux amis se regardent. M. Weevil a depuis longtemps abandonné l'affaire. M. Gappé voudrait bien ne pas désespérer, mais les prétentions du vieil avare ne sont que trop justifiées. Le clerc de M. Tulkinghorn arrive et annonce à la police que l'éminent juriste répond de la validité des titres, et que les biens du défunt, ses papiers et ses meubles, devront être, après accomplissement des formalités légales, délivrés à M. Smallweed, qui, en attendant, et comme preuve de ses droits, est admis à faire une visite de sentiment dans la maison mortuaire, et se fait porter jusque dans la chambre abandonnée de Miss Flight, où il a l'air d'un ignoble oiseau de proie, ajouté à la volière de la pauvre plaideuse. L'arrivée de cet héritier dont personne ne soupçonnait l'existence se répand bientôt dans la cour, où elle excite un puissant intérêt qui se traduit en beau denier comptant pour les armes d'Apollon. Mrs. Piper et Mrs. Perkins pensent que c'est bien malheureux pour M. Weevil, si le décédé n'a pas fait de testament, et trouvent qu'en pareil cas, on lui doit sur la fortune du défunt une jolie petite indemnité. Le jeune Piper et le jeune Perkins, comme membres de ce cercle juvénile qui fait la terreur des passants dans Chancery Lane, imaginent un nouveau jeu qui consiste à simuler la mort du vieux Crook, tantôt derrière la pompe, tantôt sous le grand portail, et à pousser des cris sauvages et des lamentations effroyables sur les cendres du défunt. Miss Melvison et le petit Swills, jugeant qu'en pareille occasion on peut franchir la distance qui sépare les artistes des bourgeois, causent amicalement avec les patrons de la taverne. M. Boxby annonce que l'attrait principal de la prochaine réunion du cercle philharmonique sera la mort du roi, ballade populaire avec chœur, exécutée par tous les membres de la Société des concerts. M. Boxby, ajoute l'affiche, a cru devoir faire exécuter cette ballade, malgré les frais extraordinaires que cela lui occasionne, pour répondre au vœu qui en a été généralement exprimé, ainsi que pour prendre part au triste événement qui vient de causer dans le public une si profonde émotion. Un point important qui a trait aux funérailles inquiète surtout les habitants du quartier, à savoir si, dans la circonstance, on donnera au cercueil la dimension ordinaire, ayant si peu de choses à y mettre. Sur la réponse de l'entrepreneur des pompes funèbres, qui déclare, vers le milieu du jour, aux armes d'Apollon, avoir reçu la commande d'un cercueil de 6 pieds, la sollicitude générale est délivrée d'un grand poids, et le fait est considéré par tout le monde comme des plus honorables pour M. Smallweed. En dehors de la cour, l'agitation n'est pas moins grande. Des savants, des médecins et des philosophes viennent en foule visiter l'endroit où l'événement a eu lieu. Et les échos du voisinage entendent ce jour-là plus de discussions profondes sur l'inflammabilité des gaz et sur l'hydrogène phosphoré que depuis que la cour existe. Quelques-unes de ces autorités, notamment les plus savantes, soutiennent avec indignation que le défunt devait choisir un autre genre de mort. Et malgré l'objection d'autorités diverses qui rappellent à leur mémoire un livre anglais fort connu sur la médecine légale, certaines enquêtes relatives à des cas de même nature, consignées au 6e volume des Travaux philosophiques, et la mort de la comtesse Cornelia Bandy, rapportée dans ses moindres détails par un nommé Bianchini, prébendier de Vérone, auteur d'un livre estimé et qui passait dans son temps pour un homme éclairé, malgré l'opinion de messieurs Maire et Faudéré, deux Français qui se sont mêlés d'approfondir ce mystérieux sujet, malgré le témoignage de leur compatriote M. Lecas, chirurgien célèbre, qui eut l'impertinence d'habiter une maison où pareil fait se présenta, pour en rendre un compte plus authentique, ces illustres docteurs n'en persistent pas moins à regarder l'entêtement que M. Crook a mis à quitter ce monde par ce chemin peu fréquenté comme un tort personnel complètement injustifiable. La cour attentive est d'autant plus enchantée qu'elle comprend moins ces théories savantes, et le plaisir qu'elle y trouve est une nouvelle source de gain pour les armes d'Apollon. Bientôt paraît le dessinateur d'un journal pittoresque, avec le premier plan toujours prêt et les figures qui se retrouvent dans l'illustration de n'importe quel événement, depuis un naufrage sur les côtes de Cornouailles jusqu'à une promenade dans Hyde Park ou un meeting à Manchester. L'artiste s'établit dans la chambre de Mrs. Perkins, et de la fenêtre de cette chambre, désormais célèbre, reproduit sur le bois la maison de l'ex-marchand de guenilles qui prend sous le burin des proportions monumentales. L'arrière-boutique où l'on introduit ce gentleman grandit à son tour dans une telle mesure que dans la gravure elle n'a pas moins d'un kilomètre de long sur 50 mètres de haut, ce dont les habitants de la cour éprouvent une satisfaction particulière. Pendant tout ce temps-là, nos deux chroniqueurs officiels vont de maison en maison, se rendent partout, entendent tout, regardent tout, mais finissent toujours par revenir au parloir des armes d'Apollon, où leurs petites plumes insatiables ne cessent d'écrire sur du papier pelure. Enfin arrivent le coroner et son enquête, absolument pareille à celle que nous avons déjà vue, si ce n'est que le magistrat témoigne une sollicitude plus vive pour le cas dont il s'agit, comme sortant de la voie commune, et dit au juré dans un aparté qui n'a rien d'officiel, On serait tenté de croire qu'il pèse sur cette maison quelque chose de fatal, comme un sort que lui aurait jeté la destinée. Nous voyons quelquefois de ces choses-là, gentlemen, et c'est un de ces mystères que nous ne saurions expliquer. Après l'enquête, on apporte le cercueil, dont les 6 pieds excitent une admiration générale. Monsieur Gappé ne joue dans tout cela qu'un rôle tellement secondaire, excepté lors de sa déposition, qu'il est repoussé comme tout le monde, réduit à contempler les murs de cette demeure, qu'un instant il a cru fouiller de fond en comble, et dont il a la mortification de voir Monsieur Smallweed cadenasser la porte, et l'amertume de se sentir éconduit. Mais avant qu'on ait terminé toutes ces formalités, c'est-à-dire avant la fin du jour, Monsieur Gappé a quelque chose à communiquer à Milady Dedlock. C'est pour ce motif que, l'âme défaillante et la conscience troublée comme un chien qui se sent en faute, il se présente à l'hôtel vers 7 heures et demande à voir sa seigneurie. Mercure lui répond qu'elle va dîner en ville. Est-ce qu'il n'a pas vu sa voiture à la porte? Le jeune homme a bien vu la voiture, mais il faut absolument qu'il parle à Milady. Mercure ne demanderait pas mieux que d'introduire ce jeune homme, ainsi qu'il le déclare à l'un de ses camarades. Mais ses instructions sont positives, et tout ce qu'il peut faire, c'est de le mener dans la bibliothèque et d'aller informer Milady de sa présence. L'énorme pièce est à peine éclairée. Monsieur Gappé jette de tous les côtés un regard inquiet et soupçonneux. Depuis l'événement, il voit partout dans l'ombre un peu de charbon couvert de cendres. Le frôlement d'une robe se fait entendre. Serait-ce? Non, ce n'est pas un spectre, mais un être vivant en chair et en os, splendidement habillé. « Je demande à votre seigneurie 1000 fois pardon, » bégaye Monsieur Gappé. « C'est une heure peu convenable pour... »« Je vous ai dit que vous pouviez venir à n'importe quelle heure. » Milady prend une chaise et le regarde fixement comme la première fois qu'il est venu. « Je remercie votre seigneurie. Votre seigneurie est bien aimable. »« Asseyez-vous, » dit-elle d'un air qui ne brille point précisément par l'amabilité. « Je ne crois pas que cela vaille la peine de m'asseoir et de retenir votre seigneurie, car je n'ai pas pu me procurer les lettres dont je lui ai parlé dans la dernière visite que j'ai eu l'honneur de lui faire. Vous n'êtes venu que pour me dire cela? Oui, votre seigneurie. Le malaise du jeune homme est considérablement accru par la splendeur et la beauté de Milady. Elle connaît parfaitement l'influence qu'elle exerce. Elle l'a trop bien étudiée pour perdre un atome de l'effet qu'elle produit sur tout le monde. Et pendant qu'elle le regarde avec cette froideur morne qui augmente le trouble du jeune homme, M. Gappé comprend que non seulement il a perdu le fil qui pouvait le guider dans le labyrinthe des pensées de sa seigneurie, mais que chaque seconde recule encore la distance qui les sépare. En un mot, poursuit-il de l'air confus et repentant d'un voleur honteux de son crime, la personne qui devait me donner ces lettres vient de mourir subitement. Elle a été brûlée et... Milady finit sa phrase. Et ces lettres, dit-elle, ont été détruites par la même occasion? Je le pense, répond M. Gappé, qui voudrait dire le contraire, mais qui ne peut pas mentir. Et, ne découvrant pas sur ce noble visage le moindre éclair de joie, le plus léger indice de satisfaction à cette nouvelle, il balbutie gauchement une excuse maladroite. Est-ce là tout ce que vous avez à me dire? Lui demande Lady Dedlock. Je le pense, votre seigneurie. Vous feriez mieux d'en être sûr, car c'est la dernière fois que vous avez l'occasion de m'en donner l'assurance. M. Gappé en a la certitude, et d'ailleurs n'a pas le moindre désir de prolonger cet entretien. Cela suffit, je vous dispense de toute excuse. Et Milady sonne Mercure pour qu'il montre la porte au jeune M. Gappé. Mais voilà qu'au même instant paraît dans ce même hôtel un vieillard appelé Tulkinghorn, et que ce vieillard, se dirigeant de son pas discret vers la bibliothèque, ouvre la porte et se trouve face à face avec le jeune homme qui allait en sortir. Les yeux du procureur et de Milady échangent un regard. Le voile tombe un moment, le soupçon ardent et subtil s'allume, mais ce n'est que l'affaire d'un instant et le nuage passe. « 1000 pardons, Lady Dedlock. Il est si peu ordinaire de vous trouver à l'heure qu'il est dans cette pièce que je pensais n'y rencontrer personne. 1000 et 1000 fois pardon. « Restez, je vous en prie, » dit-elle avec indifférence. « Je sors et je n'ai plus rien à dire à ce jeune homme. » Ce dernier fait un profond salut et, d'une voix humble et soumise, exprime l'espérance que M. Tulkinghorn se porte bien. « Ah !» répond l'avoué en le regardant avec attention. bien qu'un second coup d'œil lui fût parfaitement inutile. N'appartenez-vous pas à l'étude Kenji Cowboy?
Oui, monsieur Tulkinghorn, c'est moi qu'on appelle Gappé.
Certainement, je vous remercie, monsieur Gappé. Je me porte à merveille.
Enchanté de vous l'entendre dire, monsieur. Vous ne serez jamais trop bien portant pour l'honneur du barreau.
Monsieur Gappé s'esquive, et monsieur Tulkinghorn, dont l'accoutrement de forme antique et d'un noir mat fait ressortir la beauté souveraine et l'éclat de sa seigneurie, donne la main à Milady pour la conduire à sa voiture. Il remonte en se caressant le menton et continue quelque temps cet exercice, auquel il revient souvent dans le cours de la soirée.